demander deux, trois petits mots tout à l'heure pour dire de quoi on va parler. Est-ce que vous, certains d'entre vous connaissent Georges Muller? Je suppose que oui, peut-être certains ont déjà lu sa biographie. C'est un homme qui a reçu un appel pour s'occuper d'orphelins en Angleterre au 19e siècle. Et il a toujours travaillé sans ressources, sans demander, sans avoir le support derrière, autre que celui que Dieu fournissait jour par jour. Et il y a une expérience de vie incroyable. Et notamment un matin, donc il avait plusieurs centaines, là à ce moment-là à peu près 300 enfants dans son orphelinat. Donc, vous voyez, quand vous en avez 5 à l'école du dimanche, là, il y en a 300, quoi. Vous imaginez un peu, et c'était l'heure du petit déjeuner, mais il n'y avait rien à manger. Il n'y avait rien du tout. Et donc, il a fait venir les enfants à table, dans la salle à manger. Ils étaient assis, leurs assiettes, tout était devant eux, mais vide. Il n'y avait pas d'argent pour acheter non plus de la nourriture. Et donc, quelqu'un est venu prévenir Georges Muller en lui disant: Monsieur Muller, les enfants sont là, mais il n'y a rien à manger. Et en fait, il est venu devant eux, il a prié, et il a prié: Cher Père, nous te remercions pour ce que tu vas nous donner à manger. Et à peine la prière terminée, quelqu'un a frappé à la porte. C'était le boulanger. Et il a expliqué à Georges Muller qu'il était incapable de dormir pendant la nuit. Il avait la conviction qu'il fallait qu'il prépare du pain pour les enfants. Et il s'est levé très tôt. Et il a préparé du pain frais qu'il a amené à l'orphelinat. Et quelques instants plus tard, ça a frappé à nouveau. Cette fois, c'était le laitier. Il avait un chariot plein de lait. Et juste devant l'orphelinat, il y a une roue qui s'est cassée. Et il pouvait plus livrer son lait où c'était prévu. Et il risquait de perdre tout son lait. Il a dit à Georges Muller: Ben, je vais vous donner le lait parce que sinon il est perdu. Qu'est-ce que cette histoire nous apprend? Alors, bien sûr que Dieu fait des miracles. Bien sûr, on se dit: Oui, mais Georges Muller, c'était Georges Muller. Non, ça nous apprend surtout que Dieu agit quand on lui fait confiance. Et ce matin, on va parler d'un épisode de la vie de David. Donc, le contexte, c'est que le peuple d'Israël voulait un roi. Dieu a choisi Saül comme roi, mais Saül a désobéi à Dieu et Dieu l'a rejeté. Et Dieu a mandaté Samuel, le prophète, pour oindre un nouveau roi, le roi David. Alors, ce qui est un peu bizarre quand même dans cette histoire, c'est que David a été oint comme roi, mais David ne devient pas roi à ce moment-là. En fait, seule la famille de David était présente à ce moment-là. Et David reste en fait au service de Saül, le roi officiel, comme un simple employé. Puis en fait, après, comme un chef militaire, qui accumule d'ailleurs beaucoup de succès, au point où Saül devient jaloux de David. Et il cherche à le tuer. Pourquoi est-ce que David ne revendique pas le trône? Est-ce que vous êtes déjà posé la question? Est-ce que ce n'était pas légitime? Est-ce que ce n'était pas Dieu lui-même qui l'avait nommé comme futur roi? Est-ce que vous pensez que David ne s'est pas posé ces questions-là? Moi, je sais que ça m'aurait contrarié. Dieu, tu m'as oint comme roi. Aujourd'hui, je suis au service du roi et en plus, il veut me tuer. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui cloche? Est-ce que tu t'es pas trompé dans tes plans, Seigneur? Ce qu'on peut relever de remarquable, c'est que David ne s'est pas révolté contre Dieu. Il n'a pas fait valoir ses droits. Il n'a pas dit au peuple: Mais attendez, moi j'ai été oint roi. Maintenant, il faut que ça change. Pourquoi David ne s'est pas révolté? Parce que David a eu une attitude soumise à Dieu et Dieu l'a mis à l'épreuve de la patience. Mais David avait confiance en Dieu parce qu'il connaissait Dieu. Et David savait que tout ce que Dieu promet, il l'accomplit. David comptait sur l'amour de Dieu pour lui. Et pourtant, pour lui, les difficultés s'accumulent. Il est menacé physiquement par le roi Saül, qui a tenté deux fois de le planter avec sa lance contre le mur. À un moment donné, David a fui chez les Philistins. Les Philistins, c'était les ennemis, hein, les ennemis du peuple d'Israël. Et David n'avait pas d'autre solution pour échapper à Saül que de fuir chez les ennemis. Et alors, pour ne pas se faire attraper là-bas, il a joué au fou. Hein, alors, il nous dit carrément qu'il faisait de la... Il bavait sur sa barbe, au point où le roi philistin m'a dit « Mais j'ai pas assez de fous dans mon pays pour que vous m'ameniez encore celui-ci. » Dans cette histoire-là aussi, David perd sa femme, Michal. Puisque quand David fuit, Michal reste au pays, et en plus, Saül va la remarier à quelqu'un d'autre. Donc il perd sa femme. Il doit fuir de ville en ville, de lieu en lieu, parce que Saül se met à sa recherche et le poursuit dans le désert. Il ne peut pas rester à un endroit tranquillement en se disant « je vais attendre ». Non, il doit fuir. David aussi se sent coupable de meurtre que Saül a commis, parce qu'à un moment donné, des prêtres vont aider David à se cacher. Et ces prêtres l'aident sans qu'il sache qu'en fait, il fuit Saül. Et Saül pense que c'est en connaissance de cause qu'ils l'ont aidé, donc Saül va assassiner ses prêtres, toute une famille de prêtres, parce qu'il les accuse de trahison. Et en fait, David se sent coupable de ça, parce qu'il s'estime responsable de la mort de ses prêtres. Donc David a des ennemis dans son propre pays, mais il a aussi des ennemis hors de son pays. À un moment donné, David délivre une ville philistine, la ville de Keila. Il la délivre de pillards et David se réfugie dans cette ville. Donc on se dit, il s'est mis à l'abri. Et en fait, à un moment donné, Saül attaque cette ville pour saisir David. Et David demande à Dieu, mais est-ce que cette ville va me livrer à Saül? Et Dieu dit, oui, ils vont te livrer à Saül, il faut que tu la quittes. Donc même les gens que David a délivrés deviennent des ennemis. So for the non-French speaking peoples, we are speaking about a part of David's life when he was persecuted by Saul, and he fled around many cities, many countries. So we are following the 1 Samuel chapter 27 to 29, if you want to maybe 30, if you want to follow. Donc on va lire un premier passage dans 1 Samuel 27, 1 à 7. Et je vous invite à le lire ensemble à l'écran, si quelqu'un veut le lire à voix haute. Ça arrive. Voilà. Est-ce que quelqu'un peut lire la diapo à voix haute et forte?
On informa Saül. David se mit en route avec ses deux femmes, Ahinoam, Jézréel et Abigaël, femme de Nabal, de Carmel, ainsi qu'avec ses trois hommes et leur famille. Le grand dire est Akhi, fils de Maor, roi de Gath, David et Rita.
Un d'autre?
Ah, Saoul, que David s'est enfui à Gath et ne cessa de. J'accepte de me faire une faveur, autorise-moi à m'installer dans un village qui tombe la campagne. Je n'ai pas besoin de protection des serviteurs, mais j'y vais dans la ville royale avec toi. Alors, à qui est-ce qu'on veut à ce moment-là, Tidal? Et pourquoi Tidal? À partir d'une seule cour, roi de Juda. David demeura un an et quatre mois en Philistie.
Voilà. Donc David avait déjà été une première fois réfugié chez les Philistins, mais là il se dit maintenant il faut que j'y aille définitivement. Tziklag, c'est une ville qui se situe, on va dire, à peu près au niveau de Gaza. C'est une ville qui normalement était vraiment dans le territoire d'Israël, mais qui était occupée, on va dire, toute la région par les Philistins. Il se passe alors un événement spécial, et on va lire au chapitre 28 les versets 1 à 2.
Quelqu'un veut lire ?
Oui, on peut continuer à lire ça, oui.
Les Philistins concentrèrent toutes leurs troupes à terre, tandis qu'Israël était campé près de la source de l'Israël. Les cinq princes des Philistins défilèrent en tête de leurs unités, des centaines et des milliers, et David et ses hommes formaient l'arrière-garde autour d'Achish. Les princes des Philistins demandèrent: que font ici ces Hébreux? Achish répondit: ne reconnaissez-vous pas David? Qui avait été au service de Saül, roi d'Israël, mais qui, depuis un an ou deux est chez moi, depuis qu'il s'est rallié à nous, je n'ai jamais rien eu à lui reprocher.
Un autre?
Les princes des Philistins se fâchèrent d'Achish. Lui dit: renvoie cet homme dans la ville que tu lui as assignée. Il ne faut pas qu'il participe avec nous au combat, sinon il pourrait se retourner contre nous avec ses hommes en pleine bataille. N'est-ce pas au prix de la tête de nos gens qu'il pourrait regagner la faveur de son souverain? N'oublions pas que c'est David que les femmes chantaient en dansant. Saül a frappé ses milliers et David ses dizaines de milliers. Finalement, Achish appela David et lui dit: si vrai que l'Éternel est vivant, mais un homme juste, et j'aurais aimé que tu prennes part avec moi à cette expédition militaire, car je n'ai jamais rien dû à te reprocher depuis que tu es venu chez moi jusqu'à ce jour. Je n'ai pas bien vu des autres princes philistins. Maintenant donc, repars en paix chez toi pour ne pas les indisposer.
Merci. Alors j'ai une image d'une carte un peu de la région dont on parle. Donc David est à Tziklag. Tziklag c'est ici, d'accord, c'est la ville où David réside. Les Philistins globalement sont dans cette région-là. Et ils se rassemblent à Afek pour aller faire la guerre à Saül. Mais Saül, lui, il n'est pas par là, il est là-haut. C'est là où aura lieu la bataille. Donc c'est Gilboa et les villes à côté où donc Saül et toute l'armée israélite attendent. Donc l'idée c'est que les Philistins montent ensuite à Gilboa pour attaquer les Israélites. Voilà. Et donc David se retrouve là-bas au moment où finalement tous les princes des Philistins lui disent: mais attendez, on ne va pas prendre avec nous un chef de guerre qui nous a combattus pendant des années, et s'il se retourne contre nous pendant la bataille, qu'est-ce qui va se passer? Et donc, Achish, qui est le roi philistin qui avait confiance en David, se dit: bon, bah, ok, je vous suis, on ne peut pas prendre David avec nous. David, rentre chez toi, je suis désolé. Voilà. Et donc, David retourne vers Tziklag où il résidait. On lit ça dans 1 Samuel 29, verset 11. Voilà, donc 1 Samuel 29, verset 11. Le lendemain, David et ses hommes se levèrent de bonne heure pour se mettre en route et regagner la Philistie, tandis que les Philistins montèrent vers Jisréel, en haut du pays. Chapitre 30, 1 Samuel 30. On va lire les versets 1 à 6, le début du verset 6. Quelqu'un veut lire ?
Lorsque David arriva le surlendemain avec ses hommes, il la trouva ravagée, incendiée. La Malécite, les filles et l'incursion dans le Midian et contre Tiglath. C'était emparé des femmes et de ceux qui se trouvaient dans la ville, quelle que soit leur condition. Sans toutefois tuer personne. Ils avaient emmené et avaient continué leur chemin. Quand David et ses compagnons arrivèrent à la ville, ils découvrirent que telle avait été incendiée, que leurs femmes, leurs filles, leurs filles, avait été emmené captif. David et ses compagnons se mirent à crier et à pleurer jusqu'en Israël. Deux femmes de David, Ahinoam, Israël, Abigaël, Tov, Nabal, Carmel, étaient parmi les prêtres. David était dans une situation angoissante parce que ses compagnons étaient pleins d'amertume en pensant chacun à ses fils et ses filles. Et il parlait de la vie.
Merci. Alors c'est la catastrophe quand David rentre dans la ville où il résidait à Tsiklag. La ville est détruite, il n'y a plus personne, tout le monde a disparu. Et l'autre catastrophe, c'est que tous les soldats de David, tous ses supports, ceux sur qui il peut compter, ils sont en colère contre lui. Mais non seulement en colère, mais il parle même de le lapider. David se sent angoissé et impuissant. Et qu'est-ce qu'il pourrait faire contre, par rapport à cette situation ? Que fait alors David ? Verset 6b, la deuxième partie du verset 6. Mais David puisa de nouvelles forces en se confiant en l'Éternel son Dieu. Il se confia en Dieu. Alors dans d'autres versions, j'ai regardé un peu les termes qui sont pris, on a dans d'autres versions, il reprit courage en s'appuyant sur Dieu. Dans une autre version, on a, il se fortifia en l'Éternel son Dieu. Et dans une autre version encore, il s'encouragea dans le Seigneur son Dieu. Qu'est-ce que nous faisons, nous, dans une situation très angoissante ? Est-ce que nous prenons la fuite ? Il aurait pu se dire... Mes propres amis m'attaquent, je pars vite. Est-ce que je me révolte contre Dieu ? Est-ce que je sombre dans la dépression ? Nous avons un modèle en David, un modèle dans pas mal de domaines. Alors, est-ce que Dieu lui parle à ce moment-là ? Est-ce qu'il le console ? Est-ce qu'il le rassure ? À ce moment-là, Dieu ne répond pas, Dieu ne dit rien. Mais David, comment ça se fait qu'il arrive à puiser des forces en Dieu, alors. En fait, David se confie dans ce qu'il connaît de Dieu, dans ce qu'il sait être de Dieu, dans ce qu'il sait que Dieu est. Probablement dans tout ce qu'il a lu aussi dans le Pentateuque, dans les livres de Moïse, mais aussi dans ses expériences passées. Est-ce qu'il n'a pas déjà reconnu que Dieu l'a aidé à combattre des ours, des lions quand il était berger ? Et quand il a vaincu Goliath, je pense que ces expériences concrètes de l'aide de Dieu sont pour lui présentes dans ses pensées. Il sait se remémorer toutes les fois où Dieu l'a secouru. Souvent, nous avons la mémoire très courte. Nous avons oublié toutes les fois où Dieu est intervenu, toutes les fois où Dieu nous a secourus. Et nous avons besoin de nous remémorer toutes les fois où Dieu est intervenu. Vous savez, toutes ces histoires de l'Ancien Testament, ce n'est pas juste pour avoir des belles histoires sur le peuple d'Israël, c'est pour nous rappeler tous les jours que Dieu intervient dans la vie du peuple, dans la vie de ses enfants, dans la vie des hommes. David est aussi un homme qui a passé beaucoup de temps dans la présence de Dieu. Vous en voulez une preuve ? Alors là, je demande à tous les pasteurs et assimilés de ne pas répondre. Donc, je demande aux laïcs de me répondre. Combien de psaumes, sur l'ensemble des psaumes, ont été composés par David ? Allez-y. How many psalms have been written by David ? J'entends rien. Hein. Allez-y, hein, il n'y a pas de... Pardon ? 120, non, quand même, pas autant. Un peu moins. 50, un peu plus. Alors, il y en a 73 sur, et certains pensent 75, parce qu'il y a un petit doute sur deux psaumes. 75, c'est marrant, parce que c'est la moitié des psaumes de la Bible. Les psaumes, c'est quand même un livre qui est l'un des plus gros de la Bible, et David en a écrit la moitié. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé combien de temps ça a pu lui prendre ? Combien de temps il a passé à écrire ses psaumes, à les composer, parce que c'est des chants souvent, à les chanter, à composer la musique ? Combien de temps il a passé avec Dieu dans sa présence ? En combien de temps cela lui a pris de forger une relation intime avec Dieu ? Et quand on regarde aussi, il y a beaucoup de psaumes qui ont été écrits dans des circonstances dramatiques, eux aussi. Et on en a une liste. Manu, si tu veux l'afficher. Alors, c'est écrit petit, mais c'est pas grave. Je vais vous le lire, hein. C'est juste pour vous donner un peu une idée. Psaume 3, psaume lorsqu'il fuyait devant Absalom, son fils. Psaume 7, psaume qu'il chanta à l'Éternel au sujet des paroles de Cush, le Benjaminite. C'est quelqu'un qu'il maudissait, quoi. Donc, que du bonheur. Psaume 34, lorsqu'il contrefit l'insensé en présence d'Abimélec et s'en allait chasser par lui. Que je vous ai raconté tout à l'heure, quand il a fait le fou. Il n'était pas très fier non plus. Hein. Psaume 52, lorsque Doeg, l'Édomite, va informer Saül et lui dit « David s'est rendu dans la maison d'Abimélec. » Donc il s'est retrouvé dans une situation où il allait risquer de mourir. Psaume 54, lorsque les Ziphiens dirent à Saül « David n'est-il pas caché parmi nous ?» Psaume 56, lorsque les Philistins le saisirent à Gath. Psaume 57, lorsque David se réfugia dans la caverne, poursuivi par Saül. Psaume 59, lorsque Saül envoya cerner sa maison pour le faire mourir. Psaume 63, lorsqu'il était dans le désert de Juda. Psaume 142, lorsqu'il était dans la caverne.
Donc, c'est quelques psaumes où David exprime en fait des situations dramatiques, des situations où il se sent complètement écrasé. Tous les autres psaumes, ce sont des psaumes où on n'a pas les circonstances précises. Ça ne veut pas dire qu'il n'était pas aussi dans des circonstances difficiles. Et en fait, tous ces psaumes-là commencent par des complaintes, des plaintes. David qui dit « Regarde Seigneur, je suis angoissé, je suis poursuivi, ça ne va plus. » Mais tous systématiquement finissent par un retour à l'Éternel, et David qui dit « Mais Seigneur, je te fais confiance, je sais que tu agiras. » Dans nos téléphones, on a, je ne sais pas si vous l'avez, mais moi j'en ai un, j'ai un compteur qui me dit tous les jours combien de temps j'ai passé sur mon téléphone. Ça fait mal. Et en fait, on devrait avoir une application qui nous calcule le temps qu'on a passé dans la présence de Dieu. Et on pourrait comparer les deux, et je pense que ça nous remet très vite les pendules à l'heure. Combien de temps passons-nous face à face avec le Seigneur ? Je pense qu'on serait souvent honteux de comparer ces deux chiffres. Et pourtant, nous disons, moi le premier, assez facilement, le Seigneur, c'est ce qu'il y a de plus important dans ma vie. Je pense que c'est facile à dire, mais est-ce qu'on le prouve par notre attitude ? Par le temps qu'on passe dans la présence du Seigneur. Reprenons la lecture dans 1 Samuel 30, les versets 7 et 8. Quelqu'un veut bien lire ?
David puisa de nouvelles forces en l'Éternel. Il demanda au prêtre Abiathar, le fils d'Ahimélec, d'apporter une parole servant à David. David interrogea
Merci. David se confie en Dieu et ensuite David agit en se soumettant à ce que Dieu lui dit. Alors oui, dans ce cas-là, on a l'impression que c'est un peu facile parce que il pose une question très claire à Dieu, Dieu lui répond de façon très claire. Mais n'oublions pas que quand David est devenu roi, pendant plusieurs années, il n'a pas été roi et pourtant il comptait sur la promesse de Dieu. Donc il ne savait pas, Dieu ne lui avait pas dit « il se passera ceci, cela et ensuite tu pourras devenir roi ». Non, il a eu beaucoup, beaucoup d'années à attendre, à devoir faire confiance à Dieu contre vents et marées, contre les circonstances. Et si nous demandons à Dieu de nous conduire, de nous diriger, il le fera, quelquefois pas immédiatement, quelquefois immédiatement, mais Dieu nous orientera toujours si nous nous attendons à lui et si nous lui obéissons. Quelquefois, Dieu répond simplement en fermant des portes. On en a l'expérience aussi dans nos recherches de projets de bâtiments pour cette église, où Dieu a fermé des portes successivement, et on a l'impression que Dieu ne répond pas. Mais si, Dieu nous répond. Mais ça veut dire qu'on a mal imaginé les solutions qui s'offrent à nous, et peut-être pas écouté suffisamment ce que Dieu nous disait. Quand Dieu ferme une porte, c'est une réponse. Alors nous pouvons comparer aussi l'attitude de David avec l'attitude de quelqu'un d'autre dans la Bible qui n'a pas fait ce qu'il fallait dans des circonstances dramatiques, elles aussi. Et c'est Saül. J'ai vécu en fait une expérience assez similaire. Et c'est très intéressant de comparer l'attitude de ces deux hommes, David et Saül, dans des circonstances qui sont relativement identique. Mais Saül a fait des choix désastreux pour lui-même et pour le peuple. Et ça se trouve dans 1 Samuel chapitre 13, versets 5 à 14. Je ne crois pas que je l'ai, sinon je vais vous le lire. Donc c'est au moment où Saül est roi. Les Philistins, donc il y a une guerre entre Israël et les Philistins. Les Philistins mobilisèrent leurs troupes pour combattre Israël. Ils avaient 3000 chars de guerre, 6000 soldats sur char, ainsi qu'une multitude de fantassins, nombreux comme les grains de sable des mers. Ils allèrent prendre position à Michmas, à l'est de Beth-Aven. Les hommes d'Israël virent qu'ils étaient dans une situation extrêmement critique, car ils étaient serrés de près par l'ennemi. Ils se cachèrent dans les grottes, les buissons, les cavernes, les souterrains et les citernes. Certains Hébreux franchirent le Jourdain et se réfugièrent dans le territoire de Gad et de Galaad. Pendant ce temps, Saül était toujours à Gilgal et au milieu de son armée qui tremblait d'épouvante. Il attendit 7 jours le rendez-vous fixé par Samuel. Celui-ci n'arrivant pas, les soldats commencèrent à se disperser et à abandonner Saül. Vous imaginez, vous avez une armée qui attend. Samuel a dit à Saül, « Je viendrai, je ferai des sacrifices, vous devez m'attendre. » Mais tout le monde tremble de peur en voyant cette armée énorme devant eux, au point où les soldats se cachent partout où ils peuvent. Imaginez se cacher dans un buisson, ce n'est pas une très grande cachette. Ça veut dire qu'ils n'ont vraiment aucune autre solution. Dans des citernes, si vous êtes découvert par l'ennemi, vous êtes mort. Dans des cavernes, partout. Et les soldats commencent à abandonner Saül. Saül se retrouve dans une situation totalement similaire à celle qu'on a évoquée pour David. Une situation angoissante, où il y a pas de, on est face à un mur, il n'y a pas de solution. Alors Saül dit, « Amenez-moi les bêtes de l'Holocauste et les sacrifices de communion. » Et il offrit lui-même l'Holocauste. Au moment où il achevait de l'offrir, Samuel arriva. Saül alla à sa rencontre pour le saluer. Samuel lui demanda, « Mais qu'as-tu fait ?» Saül répondit, « Quand j'ai vu que mes soldats se dispersaient loin de moi, que tu n'arrivais pas au rendez-vous fixé et que les Philistins étaient concentrés à Michmas, je me suis dit, « Les Philistins vont tomber sur moi à Gilgal, avant que j'aie pu implorer l'Éternel. Alors je me suis fait violence et j'ai offert l'Holocauste. » Samuel dit à Saül, « Tu as agi comme un insensé. Tu n'as pas obéi au commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. Si tu l'avais fait, L'Éternel aurait affermi ton autorité royale sur Israël. Il aurait fait en sorte que tes descendants y gardent pour toujours la royauté. Mais puisque tu as désobéi aux ordres de l'Éternel, ta royauté ne subsistera pas. L'Éternel a décidé de se chercher un homme qui corresponde à ses désirs et de l'établir chef de son peuple. Saül est dans la même situation, dans la même angoisse que David. Il y a les mêmes réalités en face de lui, la réalité d'une armée plus puissante, la réalité d'une situation sans issue. Mais en fait, Saül, la différence, c'est qu'il veut forcer Dieu, il veut forcer la main de Dieu à faire ce que lui pense qu'il faut faire. Il pense aussi qu'une fois que le sacrifice est fait, Dieu ne pourra que lui accorder la victoire. Remarquez que Saül a attendu 7 jours Samuel, et au moment où il a offert le sacrifice, Samuel est arrivé. Donc, peut-être à 1 heure près, Samuel aurait été là. La panique est mauvaise conseillère, et elle nous éloigne de Dieu. Saül a fait le mauvais choix. Il n'a pas crié à Dieu, parce qu'il n'avait pas de relation avec Dieu, il n'avait pas confiance en Dieu, il ne connaissait pas Dieu. Il ne savait pas que Dieu à des projets qui dépassent notre compréhension, notre logique, et même qui dépassent quelquefois la logique, on va dire, du monde matériel que nous connaissons, puisque Dieu s'affranchit des lois de la physique et de même de sa création. Dieu fait ce qu'il veut. Saül a fait les mauvais choix, mais David a fait le bon choix. Et le résultat, c'est que Saül a été rejeté par Dieu, alors que David deviendra roi. Nous avons 2 exemples qui, dans des circonstances similaires, ont des réactions totalement opposées. Et nous sommes peut-être confrontés dans notre vie, et nous allons l'être si nous ne l'avons pas encore été, à des circonstances qui sont angoissantes. On se sent prisonnier, on se sent coincé. Et est-ce que nous allons céder à la panique ? Vouloir demander à Dieu, fais ceci, fais cela. Peut-être même c'est croire en la superstition. Si je fais quelque chose de spirituel, je vais offrir un sacrifice, Dieu va être obligé de me répondre. Est-ce que nous nous laissons diriger par la peur? Ou est-ce que nous allons nous laisser fortifier en l'Éternel notre Dieu? Pensons à la vie de David. La vie de David n'a pas été un long fleuve tranquille. Quand on lit les histoires, comme on connaît toujours la suite, on connaît la fin, on se dit, il a obéi à Dieu, il a suivi Dieu et Dieu l'a béni. Non, David a traversé des périodes terribles. Tout à l'heure, j'ai évoqué toute la succession de choses catastrophiques que David a vécues avant de devenir roi. Mais même une fois qu'il a été roi, il a dû affronter ses propres fils qui voulaient le tuer. Il a dû affronter des épreuves terribles. La vie de David n'a pas été un long fleuve tranquille. Pourtant, David nous a laissé 75 psaumes avec des réponses de Dieu, des psaumes où il parle de son expérience, où il parle de sa vie d'homme confronté à des situations très difficiles, mais où il crie à Dieu et où il fait confiance en l'amour de Dieu. Jésus lui-même, alors j'ai cité simplement un passage, mais vous en connaissez bien d'autres, nous dit de ne pas nous inquiéter dans des circonstances dramatiques. Jésus lui-même, dans le sermon sur la montagne, dit « Ne craignez donc pas ceux qui peuvent tuer le corps, mais qui n'ont pas le pouvoir de faire mourir l'âme. » Craignez plutôt celui qui peut faire périr corps et âme dans l'enfer. Ne vend-on pas une paire de moineaux pour un sou? Et pourtant, pas un seul d'entre eux ne tombe à terre sans le consentement de votre Père. Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont comptés. N'ayez donc aucune crainte. car vous avez bien plus de valeur que toute une volée de moineaux. C'est pourquoi, tous ceux qui se déclareront pour moi devant les hommes, je me déclarerai moi aussi pour eux devant mon Père céleste. » Je m'arrête là. Donc Jésus lui-même aussi nous dit, mais si vous vous inquiétez, c'est que vous ne connaissez pas votre Père comme il est réellement. Parce que même les moineaux, même vos cheveux, et Dieu sait qu'on en perd tous les jours, enfin moi j'en perds beaucoup, certains plus, même nos cheveux sont comptés, ça veut dire que Dieu ne... aucun petit détail de notre vie ne lui échappe. Et quand nous sommes dans une... face à un mur, c'est à qui irions-nous, hein, c'est ce que disait Pierre. Seigneur, à qui irions-nous? Que faire d'autre? Tu es celui qui prend qui s'occupe de nous. Tu es celui qui nous aime. Et je voudrais conclure en lisant justement un psaume, l'un des psaumes que j'ai cité tout à l'heure, qui est un psaume qui nous présente des circonstances difficiles, dramatiques pour David. Et j'ai choisi le psaume 34. Alors je vais vous le lire. Psaume 34. Un psaume de David lorsqu'il simula la folie en présence d'Abimélec qui le chassa de sorte que David puisse en aller. Oui, en tout temps je remercierai l'Éternel et à jamais mes lèvres le loueront. Mon sujet de fierté, c'est l'Éternel. Que les humbles l'entendent et qu'ils se réjouissent. Venez proclamer avec moi que l'Éternel est grand. Exaltons-le ensemble pour ce qu'il est. Moi, je me suis tourné vers l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Qui regarde vers lui est rayonnant de joie. Jamais son visage ne rougira de honte. Un malheureux a appelé, l'Éternel a entendu. Il l'a délivré de toutes ses détresses. Quand David dit un malheureux, il parle de lui. Hein. L'ange de l'Éternel monte la garde autour de ceux qui le révèrent. C'est lui qui les libère. Goûtez et constatez que l'Éternel est bon. Oui, heureux l'homme qui trouve son refuge en lui. Vous qui appartenez à l'Éternel, révérez-le, car rien ne manque à ceux qui le révèrent. Le lion peut connaître la disette et la faim, mais ceux qui se tournent vers l'Éternel ne manquent d'aucun bien. Venez, mes fils, écoutez-moi. Je vous apprendrai comment vivre en révérant l'Éternel. Qui désire une longue vie? Qui voudrait être heureux? Je pense qu'on peut tous dire « oui, moi j'aimerais être heureux ». Qu'il veille sur sa langue pour ne faire aucun mal. Qu'aucun propos menteur ne passe sur ses lèvres. Détourne-toi du mal, fais ce qui est bien. Cherche la paix avec ténacité. Les yeux de l'Éternel se tournent vers les justes. Son oreille est tendue pour écouter leurs cris. Mais l'Éternel s'oppose à ceux qui font le mal, pour ôter de la terre jusqu'à leurs souvenirs. Lorsque les hommes justes lancent leurs cris vers lui, l'Éternel les entend. Aussi, il les arrache à toute leur détresse. Car l'Éternel est proche de ceux qui sont, de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont un esprit abattu. Le juste doit passer par beaucoup de souffrances. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il veille sur ses eaux. Aucun d'eux n'est brisé. Le malheur tuera le méchant, les ennemis du juste auront leur châtiment, mais l'Éternel sauve la vie de tous ses serviteurs, et ceux dont il est le refuge ne seront jamais condamnés. Que nous puissions prendre toujours l'exemple de David, dans l'épreuve, dans la souffrance, surtout par l'exemple de Saül, et que nous puissions vraiment nous souvenir aussi toujours de la bonté de l'Éternel, de sa compassion, de sa fidélité. et attendre son secours dans la paix, dans sa paix. Amen. Je te laisse la place, Patrick.